VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manirakidza à la présentation de cette édition du jeudi 15 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. En Afrique du Sud, plus de 117 morts dans les violences. L'armée mobilise les réservistes pour tenter de faire cesser les pillages. Au Bénin, ouverture du procès de l'opposant Joël Aïvo. Le président Joe Biden reçoit à la Maison-Blanche la chancelière Angela Merkel. En Allemagne, des pluies diluviennes et des inondations ont fait plus de 40 morts. Et en Afghanistan, les talibans offrent un cessez-le-feu de 3 mois contre la libération de 7000 de leurs partisans emprisonnés. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Afrique du Sud, les violences ont fait au moins 117 morts. Un précédent bilan faisait état de 72 morts. La ministre de la Défense, Kumbuzo Ntshavheni, a précisé qu'il y a eu 26 morts dans la région de Johannesburg et 91 morts pour la seule province du KwaZulu-Natal où ces violences ont commencé. L'armée a mobilisé ses réservistes pour endiguer les violences, n'est-ce pas Nathalie Barge?
De nombreux habitants de Johannesburg ont commencé à nettoyer. Beaucoup de magasins sont fermés tandis que des commerçants déblayent leurs devantures détruites par les pilleurs. Dans la matinée, certaines rues étaient encore bloquées par des barricades et des carcasses de voitures brûlées. Des habitants du township de Vosloorus se sont organisés en groupes d'autodéfense, passant à tabac des présumés pillards et en remettant certains à la police. La situation reste tendue dans le township de Phoenix à Durban, où 15 personnes ont été tuées. Les affrontements y ont pris une tournure raciale entre Africains et Sud-Africains d'origine indienne. Le ministre de la police, Bekki Sele, s'est rendu sur place. L'armée se prépare à déployer 25 000 soldats pour pacifier Johannesburg, les grandes villes du KwaZulu-Natal, dont sa capitale Pietermaritzburg et le port de Durban.
Au Congo-Brazzaville, 6 militants de droits de l'homme accusés d'atteinte à la sécurité de l'État ont été placés en liberté provisoire après 4 mois de détention sans avoir été jugés. L'ordonnance a été rendue mercredi par la Cour d'appel de Brazzaville et les 6 activistes ont aussitôt quitté la maison d'arrêt. La Cour n'a pas précisé la date d'un éventuel procès ni les raisons de cette libération. Au Bénin, le procès de l'opposant Joël Aïvo a été mis à avril au lendemain de l'élection présidentielle à laquelle il n'avait pas été autorisé à se présenter. C'est ouvert aujourd'hui à Porto Novo. Les précisions de John Lyndon.
Joël Aïvo, professeur agrégé de droit, âgé de 47 ans, est jugé par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour atteinte à la sécurité de l'État et blanchiment des capitaux. Il a été arrêté le 15 avril à Porto Novo au lendemain de l'annonce de la réélection du président Patrice Talon, puis a été mis en examen et incarcéré. Quelques jours avant l'ouverture de son procès, un de ses avocats, Ludovic Enebel, a affirmé que M. Aïvo est détenu arbitrairement dans des conditions inhumaines, cruelles et dégradantes pour le punir d'avoir exprimé une dissidence politique, notamment avoir osé parler à des journalistes français. Selon ses avocats, toutes les garanties d'un procès équitable et les droits de la défense sont systématiquement bafoués depuis le début de la procédure. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme mise en place en 2016 est accusée par ses détracteurs de servir d'instrument judiciaire pour museler l'opposition. Cette même cour doit juger Rekia Madougou, une autre opposante arrêtée quelques semaines avant l'élection présidentielle.
Des dizaines de chômeurs ont été arrêtés lors d'affrontements avec la police dans plusieurs villes du sud de l'Algérie, conséquence d'un mécontentement social à l'origine de manifestations qui s'étendent au Sahara, a indiqué une ONG algérienne. L'absence de recrutement des diplômés locaux a fait naître un sentiment d'humiliation, de marginalisation et d'injustice parmi la population, relève le sociologue Nasser Djabi. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis, a dressé jeudi un constat d'impasse sur les plans politiques, sécuritaires et budgétaires dans ce pays censé tenir des élections générales le 24 décembre. Réunis en Suisse du 28 juin au 2 juillet, 75 personnalités libyennes de tous bords choisis par l'ONU dans le cadre d'un processus de réconciliation, ont échoué à s'accorder sur les modalités des élections législatives et présidentielles. Les pays africains ont plaidé jeudi auprès de la Banque mondiale pour obtenir de nouveaux plans d'aide afin de financer leur relance économique, un meilleur accès à la vaccination contre le COVID-19. Moins de 3% de la population totale en Afrique a reçu une première dose de vaccin, contre environ 54% aux États-Unis et dans l'Union européenne, a déploré le président ivoirien Alassane Ouattara. Une dizaine de chefs d'État africains étaient physiquement présents à cette réunion à Abidjan pour discuter de l'aide de la Banque mondiale pour les 3 prochaines années. Les décès liés à la COVID-19 ont connu une progression de 43% en une semaine en Afrique, qui fait face à des pénuries d'oxygène et de lits en soins intensifs, a averti jeudi l'OMS. Le variant Delta a été détecté dans 21 pays africains. La montée en flèche des cas s'explique, selon l'OMS, par l'insuffisance des approvisionnements en vaccins, mais également à la lassitude du public face aux mesures de prévention. L'université de Lagos a renvoyé jeudi ses étudiants à la maison et suspendu les cours en présentiel par peur d'une nouvelle vague de COVID-19 au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Le Sénégal a vu une nouvelle augmentation du nombre de nouveaux cas de contamination, alors que le pays s'apprête à célébrer la fête musulmane de l'Aïd al-Adha la semaine prochaine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La chancelière allemande fait ses adieux à l'Amérique. Joe Biden reçoit ce soir Angela Merkel, qui va quitter ses fonctions après des élections législatives en septembre. Le point avec Abdulrahman Dia.
La chancelière a déjà eu un petit déjeuner de travail avec la vice-présidente Kamala Harris. Lors de leur rencontre prévue cet après-midi, le président américain entend exprimer sa gratitude à Angela Merkel pour son rôle moteur en Afrique et à travers le monde. La dirigeante conservatrice au pouvoir depuis novembre 2005 a vu se succéder 4 présidents américains, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump et maintenant Joe Biden. Elle n'a pas eu de bon rapport avec Donald Trump, qui a critiqué Berlin pour sa contribution financière jugée insuffisante au sein de l'OTAN. Les relations entre les deux pays se sont nettement améliorées depuis et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a récemment qualifié l'Allemagne de meilleur ami des États-Unis. Joe Biden a enterré un projet de son prédécesseur qui avait décidé le retrait d'un tiers des troupes américaines dans le pays. Mais tout n'est pas rose entre Washington et Berlin. Le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique sans passer par l'Ukraine, est très critiqué à Washington et en Europe de l'Est.
Pluies diluviennes et inondations ont frappé jeudi plusieurs pays européens, l'Allemagne en particulier, qui vit une tragédie selon Angela Merkel, avec au moins 42 morts. La Belgique, où les intempéries ont fait 4 morts, au moins 6 selon la chaîne nationale de télévision, a subi d'importants dégâts, tout comme le Luxembourg et les Pays-Bas. L'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse le 7 juillet a été planifié depuis la République dominicaine voisine, a affirmé le chef de la police d'Haïti hier soir. L'ancien sénateur Joel John Joseph fait objet d'un avis de recherche. Pour le moment, 3 Colombiens ont été tués et 18 autres appréhendés par la police. En Afghanistan, les talibans proposent un cessez-le-feu de 3 mois en échange de la libération de 7 000 des leurs qui sont détenus par les autorités afghanes. Le point avec Rosine Munezero.
Le négociateur du gouvernement afghan, Nader Naderi, dit que l'offre des talibans porte une exigence considérable, ajoutant qu'il réclame aussi le retrait des noms de ses dirigeants d'une liste noire de l'ONU. Un porte-parole des talibans a indiqué ne pas être au courant d'un quelconque projet de cessez-le-feu de 3 mois. Durant l'Aïd el-Adha, qui dure 3 jours à partir du 20 juillet, les talibans pourraient envisager un cessez-le-feu, a-t-il ajouté. Les pourparlers entre le gouvernement afghan et les insurgés sont au point mort depuis qu'ils ont commencé en septembre à Doha, la capitale du Qatar. Les talibans se sont emparés ces 2 derniers mois d'importantes portions du territoire afghan à la faveur d'une offensive lancée parallèlement au retrait définitif des troupes américaines d'Afghanistan, entamée début mai et prévue s'achever d'ici à la fin août.
9 civils, dont 3 enfants, ont été tués jeudi en Syrie par des bombardements du régime dans la province d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des avions de combat russes ont pilonné ces dernières semaines des secteurs de la province d'Idleb, dernier grand bastion rebelle et djihadiste dans le pays, en plus des tirs d'artillerie des forces du régime, selon le SDH. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, nous retrouvons ce soir John Linden.
L'Union monétaire de l'Afrique centrale plaide pour l'attractivité de la bourse et des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Pour l'UMAC, il est urgent pour les pays de la sous-région d'être sensibilisés sur les effets bénéfiques d'un marché financier unifié afin de rendre la place boursière plus attractive. Selon Financial Afrique, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale compte moins de 10 entreprises et institutions cotées à la bourse de Douala. L'État du Mali vient de lever 30 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine au terme de son émission d'obligations de relance du Trésor de maturité 60 mois. Ces émissions d'obligations du Trésor visent à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales pour la couverture des besoins de financement du budget de l'État. Le département américain du Trésor et l'International Revenue Service ont annoncé ce jeudi qu'environ 15 milliards de dollars ont été versés à des familles comprenant près de 60 millions d'enfants éligibles dans le premier paiement mensuel du crédit d'impôt pour enfants élargi. Les familles admissibles ont reçu jusqu'à 300 dollars par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu'à 250 dollars par mois pour chaque enfant de 6 à 17 ans.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Finale NBA pour commencer. Milwaukee vient à bout de Phoenix une seconde fois d'affilée, 109-103 pour revenir à égalité. Deux victoires partout. Bagasikura.
Oui, des retournements de situation comme s'il en pleuvait. Ce quatrième match de la finale s'est joué à des détails. Phoenix semblait avoir attrapé la rencontre par le bon bout en début de quatrième quart-temps, prenant 9 points d'avance, 85-76, sur un tir à 3 points de Cameron Johnson. Mais la cinquième faute de l'arrière Devin Booker, contraint de retourner sur le banc, a relancé Milwaukee. Les Bucks sont alors revenus à la hauteur à 3 minutes de la fin du temps réglementaire avant de porter l'estocade durant les dernières secondes. Giannis Antetokounmpo, le Greek Freak, a été moins impressionnant que lors des deux précédents matchs, même s'il a tout de même rayonné, se contentant de 26 points, 14 rebonds et 8 passes décisives. Par contre, Middleton a fait la différence pour la première fois dans cette finale et passé 40 points à la défense des Suns. Les deux équipes retournent à Phoenix samedi pour la cinquième manche de cette finale complètement relancée.
Merci Bagassi. Athlétisme, Timothy Cheruiyot, initialement non qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo, figure finalement dans la liste des sélectionnés du Kenya annoncée mardi. Le champion du monde du 1500 mètres remplace le jeune Kamar Etiang, deuxième des sélections mais écarté pour ne pas s'être conformé aux mesures antidopage qui exigent 3 contrôles hors compétition au cours des 10 derniers mois. On fait savoir les responsables de l'athlétisme kenyan. Cheruiyot n'a pris que la 4e place lors des sélections kenyanes en juin. Mais ce mois-ci, le coureur du demi-fond de 25 ans a réalisé de très bons chronos en Ligue de Diamants lors de ses victoires à Stockholm et Monaco. 3 minutes 28 secondes, meilleure performance mondiale de l'année. Justement, parlant des JO, les mesures anti-Covid aux Jeux Olympiques de Tokyo fonctionnent, assure le président du Comité international olympique, Thomas Barr. Un sportif récemment arrivé au Japon a été testé positif au coronavirus, ainsi que 5 autres personnes travaillant pour l'événement, selon les organisateurs. Nous avons pu voir et nous convaincre que toutes les délégations suivent les règles et soutiennent les règles, a déclaré M. Barr. Un état d'urgence est de nouveau en vigueur depuis lundi. Dans la capitale japonaise, Tokyo a recensé plus de 1300 nouveaux cas de COVID-19 ce jeudi, dépassant les 1000 cas pour un deuxième jour d'affilée.
C'était les sports préparés par Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En Afrique du Sud, des violences et des pillages massifs ont lieu depuis près d'une semaine et se sont étendues à plusieurs villes du pays. Le gouvernement et les forces de sécurité peinent à contrôler une situation qui dégénère et des civils s'arment pour protéger leurs biens. La correspondance de Patricia Huron depuis Johannesburg.
Une foule entoure la couverture posée sur le sol. Dessous gît le corps de Vuzi Dlamini, 15 ans. À ses côtés, ses proches sont en larmes sous le choc.
On avait un caddie rempli de chaussures et de trucs comme ça. Ils nous ont demandé, qu'est-ce que vous faites? Alors on a couru. C'est là qu'ils ont tiré. Je l'ai juste vu s'écrouler.
Alors que les pillages se poursuivent depuis plusieurs jours en Afrique du Sud, des groupes d'autodéfense civile armés se sont organisés. Ici à Vosloorus, un quartier pauvre du sud de Johannesburg, il s'agit principalement de propriétaires de taxis frustrés que le chaos stoppe leurs affaires.
We are protecting the property and the economy of our township.
Nous protégeons les biens et l'économie de notre quartier contre les criminels. Nous en avons attrapé certains et les avons remis à la police, mais elle n'a pas voulu les arrêter. C'est pour ça que nous faisons la loi nous-mêmes et nous allons nous protéger.
Juste à côté, un centre commercial a été entièrement saccagé, tous les magasins vidés, les vitrines brisées. Parmi la masse de pillards, il y a des vandales, des criminels, mais aussi beaucoup de pauvres, de désespérés, qui voient là l'opportunité de récupérer de quoi manger dans les supermarchés.
Nous faisons cela parce que nous avons faim. Nous n'avons rien, pas de travail. C'est pour ça qu'on vole ces choses.
Sur des violences qui ont fait suite à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, se sont greffées toutes les frustrations de milliers de Sud-Africains. Mais des dizaines de vies humaines ont déjà été perdues, la destruction est massive et les plus pauvres seront les premières victimes, estime ce leader communautaire à Vosloorus.
People have been calling for factories, for businesses.
Des gens ont encouragé à brûler des usines, des commerces. Ils instrumentalisent la pauvreté et la faim. Mais demain, il ne restera aucun magasin ici. Et il faudra aller en ville pour acheter les commodités de base. C'est pour cela qu'il faut faire collaborer afin d'éviter que cela arrive.
Une situation qui, dans un cercle vicieux, va créer encore plus de chômage, de pauvreté et d'inégalité. Patricia Huon, Johannesburg pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane se prépare pour la fête de l'Aïd el-Adha la semaine prochaine. Cette célébration est aussi communément appelée la fête du mouton. Mais cette année, les moutons se font rares et les prix sont excessifs comparés aux autres années. Le reportage de notre correspondante à Abidjan, Aïcha Diarra.
50 000 moutons, il y en a.
Mais est-ce que ça n'arrange pas?
Les petits moutons, même tu touches même là, petits béliers, moutons baoulés là, tu connais non? Voilà, ça on te parle de 200 000. Les grands maintenant là, on te parle de 200 000, 300 pour aller. Donc, depuis matin là, on est là, on tourne.
Si Bara Abdoul a du mal à se trouver un mouton qui correspond à sa bourse, Souleymane Diaby a eu plus de chance.
Selon moi, c'est abordable. Puisque j'ai payé deux moutons, ça fait pas deux semaines, c'était beaucoup abordable. J'ai payé un à 80 000 et puis un à 75 000. C'était beaucoup abordable par rapport à l'année passée.
Les prix des moutons dépendent du type de l'élevage et de la provenance des bêtes. Morta Sissé vend des moutons venus du Burkina Faso.
Ça a commencé il y a 75, il y a 85, il y a 100 000, il y a 150, il y a 125, même il y a 300 000.
Des prix très abordables à comparer au prix des moutons de Moussa Sidi Bé qui fait de l'élevage à domicile. Ici, le prix minimum est de 150 000 francs CFA.
Voilà, nous, ce n'est pas des moutons, on fait venir ça du Burkina, du Mali. Nous, on élève les moutons pendant 9 mois. Voilà, nous, on élève pendant 9 mois, bien traités, bien nourris à la maison.
Le marché de moutons n'est pas le seul à être un casse-tête pour les consommateurs. Aïcha Kone a quand même réussi à acheter des vêtements pour ses enfants, même si elle y a laissé des plumes.
Oui, il y a payé, mais c'est trop cher. Mais en tout cas, il me suis débrouillé pour payer.
À ses plaintes, les commerçants eux-mêmes en souffrent et se justifient. Aïcha Dambélé est commerçante.
Bon, avant, on prenait oignons,
à 25 000. Aujourd'hui, c'est devenu à 45 000. Souvent, on nous dit 50 000. Tout est devenu cher. Pomme de terre aussi est cher. Vraiment, c'est pas de notre faute. De la manière dont on prend, c'est comme ça au fond.
Même si depuis quelques mois, la hausse des prix sur le marché est constatée par tous, à l'approche des fêtes, elle s'est fortement accentuée. Aïcha Diarra, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Amnesty International sort un rapport sur des terribles violations contre des hommes, des femmes et des enfants interceptés en Méditerranée et renvoyés de force dans des centres de détention en Libye, mettant en lumière les effroyables conséquences en matière de contrôle de l'immigration. Marius Murunga a joint à Londres Diana El-Tahawi, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International.
Ce rapport d'Amnesty International souligne la complicité persistante des États européens, surtout l'Italie, qui continue à aider les gardes-côtes libyens à intercepter des milliers de personnes en mer, en Méditerranée, et les renvoyer de force vers l'enfer de la détention en Libye. Et le résultat, c'est que ces personnes sont placées immédiatement en détention arbitraire et systématiquement soumises à la torture, aux violences sexuelles, au travail forcé, à d'autres formes d'exploitation, et tout ça en toute impunité.
Ce rapport parle également des témoignages accablants des migrants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Amnesty International a recueilli des témoignages de plus que 50 personnes qui étaient renvoyées vers la Libye cette année et l'année dernière, y parmi des enfants de 14 ans et de femmes. Les femmes nous ont dit que les gardiens les violaient, les soumettaient à d'autres violences sexuelles, les obligeaient même à avoir des rapports sexuels en échange de la nourriture, de l'eau, de leur libération. Les gardiens, des fois, ne permettaient pas aux femmes, et parmi elles des femmes enceintes, d'utiliser les toilettes pendant des heures. Ils les battaient. Et tout ça, c'est dans un centre officiellement désigné par les autorités libyennes comme un centre pour des personnes vulnérables.
C'est pas pour la première fois qu'il y a ce genre de rapport sur la situation des migrants en Libye. Qu'est-ce que votre rapport vient ajouter en plus?
Ce qui est nouveau maintenant, c'est que la direction de la lutte contre l'immigration en Libye, du ministère de l'Intérieur, légitime ces sortes de violations en prenant contrôle de au moins deux nouveaux centres depuis la fin de l'année dernière, qui étaient auparavant sous le contrôle des milices, où il y a des centaines de personnes qui étaient l'objet de disparitions forcées. Plus que ça, les autorités libyennes ont récompensé des personnes soupçonnées d'avoir commis ce type de violence en leur offrant des postes de pouvoir ou une promotion, ce qui signifie que nous risquons de voir ce même genre d'horreur se reproduire encore et encore en toute impunité.
Quelles sont les solutions que vous préconisez pour améliorer la situation des migrants en Libye?
On avait déjà dit ça pendant des années, que c'est vraiment la politique de l'Union européenne qui légitime ces sortes de violations. Et ce qu'on demande maintenant, c'est qu'ils suspendent leur coopération en matière d'immigration et de contrôle des frontières et qu'il ouvre des voies d'accès vers la sécurité pour les milliers de personnes qui ont besoin de la protection et qui sont actuellement bloquées en Libye. On demande aussi aux autorités libyennes de fermer tous les centres de détention pour les gens qu'ils considèrent juste d'être en Libye dans une manière irrégulière et qu'ils ne traitent pas des réfugiés et des migrants comme des criminels.
Diana El-Tahawi, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la cybercriminalité et les attaques au rançongiciel. Des hackers ont récemment paralysé plus de 1500 entreprises à travers le monde en attaquant la société informatique américaine Kaseya, réclamant 70 millions de dollars. Les États-Unis sont de plus en plus victimes de ce type d'attaque, mais l'Afrique, jusque-là touchée dans une moindre mesure, n'est pas épargnée non plus. Les experts recommandent au gouvernement et aux entreprises d'investir davantage dans la sécurisation des données. Quel risque et que faire face à ces attaques dans un monde de plus en plus digitalisé? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Les mesures anti-Covid au JO de Tokyo fonctionnent, assure le président du Comité international olympique, Thomas Bach. Un sportif récemment arrivé au Japon, l'état d'urgence est de nouveau en vigueur depuis lundi à Tokyo avec plus de 1300 nouveaux cas par jour. Dans ces conditions, comment les délégations nationales se préparent pour rejoindre la capitale japonaise? Yakuba Ouedraogo a joint à Cotonou, au Bénin, Fernando Essou, secrétaire général du Comité national olympique du Bénin.
Compte tenu des dispositions prises par le Comité d'organisation des Jeux olympiques Tokyo 2020, aucune délégation ne peut envoyer tous ses athlètes d'un seul trait. C'est pour cela que la délégation béninoise va partir à Tokyo par vagues successives. Et la première vague a décollé de Cotonou depuis hier et se trouve déjà sur place à Tokyo. Mais avant de partir, comme toutes les autres composantes de la délégation, la chef de mission et la responsable administrative se sont pliés à deux recommandations fondamentales. La première, c'est le téléchargement de deux applications, j'allais dire, OSHA et COCOA, qui permettent de réaliser les formalités d'entrée au Japon selon les dispositions mises en place par le comité d'organisation. OSHA est dédié au COVID-19. 72 heures avant de démarrer du pays, vous faites un test COVID. Si le test est négatif, vous faites encore un autre test 48 heures après le premier. Si les deux tests sont toujours négatifs, vous activez maintenant OSHA et vous y introduisez toutes les données puisque OSHA sera le dispositif par lequel vous serez suivi à travers le Japon durant tout votre séjour.
Tokyo connaît actuellement une recrudescence des cas de coronavirus. Dans quel état d'esprit les sportifs, par exemple béninois, quittent Cotonou pour rejoindre cette capitale où le corona sévit?
Tous ceux qui vont quitter Cotonou ont déjà fait leur vaccination jusqu'au rappel. Cela ne nous empêche pas de prendre des mesures qui s'imposent en matière de sécurité, en matière de distanciation sociale, en matière de port de masque, en matière de lavage des mains à l'eau et au savon, etc. C'est vrai qu'il y a recrudescence du coronavirus, mais la délégation béninoise n'en fait pas particulièrement un problème au point d'en avoir une peur bleue.
Justement, il y a assez de mesures qui sont prises contre le coronavirus sur place à Tokyo. Pas de spectateurs étrangers, par exemple. Même les spectateurs locaux seront très limités. Alors, est-ce que les sportifs et les délégations, justement, se disent que c'est peut-être des JO rabaissés?
Aucun athlète ne peut jamais, jamais parler de JO rabaissés. Jeux olympiques, c'est Jeux olympiques. C'est la plus grande compétition sportive de la planète Terre. Le plus important est que ces jeux aient lieu. Maintenant, en l'absence des spectateurs, il y aura très peu de chances de voir des records exploser. Il y aura très peu de chances de voir les athlètes surmotivés. C'est vous dire donc que être olympien, c'est un attribut qui n'est pas donné à n'importe qui. On va simplement déplorer l'absence du public.
Fernando Essou, secrétaire général du Comité national olympique du Bénin, joint à Cotonou. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez en compagnie d'Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, Rada FM 90.5 Mbuji Mayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali, et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.